Bien. Donc, je vous propose de vous faire très rapidement une histoire de l'immigration aux États-Unis. L'idée qui m'était venue quand j'ai proposé ça un petit peu comme ça à la volée, c'était que vous parlez d'Ellis Island, dont je vous parlerai bien sûr là-dessus. Ellis Island, c'est le point d'entrée de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle de l'immigration par l'Atlantique, si vous voulez. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça n'est vu par le petit bout de la lorgnette et il faut refaire un panorama général de la problématique. Alors c'est aussi intéressant parce que les États-Unis, c'est un cas pas unique, mais tout à fait significatif de pays neuf. C'est-à-dire c'est un pays où il n'y a que des immigrés, hein, par définition. Hein. Et il y a deux autres cas qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais dont disons, quantitativement, c'est moins significatif et c'est plus tardif dans l'histoire, ce qui fait que ce qu'on va voir pour les États-Unis, qui est en fait très complexe, n'est pas transposable directement. Donc on y va. Alors j'ai commencé par un petit clin d'œil. Hein. Alors je ne sais pas si tout le monde lit l'anglais, hein. Donc je traduis au fur et à mesure. Ah, vous êtes contre l'immigration? Splendide, bravo. Quand est-ce que vous partez? Hein. Donc je trouve ce petit truc, c'est un petit clin d'œil. Bon, évidemment. Voilà. On en parlera à Trump.
C'est à méditer.
Voilà. Alors, ok. Vous savez que pour le 500e anniversaire de Christophe Colomb, ça a été dit dans la conférence de M. Vion-Delphin, il y a eu des manifestations disant que c'était un crime contre l'humanité, patati patata. Enfin bon, le crime contre l'humanité, ça sert à toutes les sauces. Voilà. Alors, je rappelle quand même que, de mon point de vue, la xénophobie, c'est quelque chose qui est inscrit presque dans le patrimoine génétique depuis la nuit des temps. L'étranger fait toujours peur, par définition. Et donc, la xénophobie, c'est un réflexe, je dirais, un peu animal, qui est propre à la nature humaine. Donc, et on est toujours l'étranger de l'autre, hein, voilà, par définition. Donc, on commence par l'immigration, la colonisation au XVIIe siècle, donc dans les années 1600-1620. Et donc, il y a eu deux moteurs de cette émigration, puisque les seuls qui pouvaient parler d'immigrés, c'était les Indiens, bien sûr, hein. D'émigration, ce sont les persécutions religieuses, donc en Angleterre, puisqu'on peut pas encore dire la Grande-Bretagne, mais en Angleterre, et l'envie de faire le colonialisme classique, c'est-à-dire l'envie de faire du business. Et tout simplement en essayant de copier un petit peu ce qu'ont fait les Espagnols. Et donc, il y a eu des chartes attribuées par Charles Ier, Charles II, on verra, pour fonder des compagnies et envoyer des gens pour essayer de ramener de l'or. C'est toujours le fantasme de l'or. Et finalement, on a vu qu'il n'y avait pas d'or comme ailleurs. Mais après, on a vite vu qu'on pouvait faire un peu de commerce. Et le premier produit qui a servi de support au commerce, c'était le tabac. Par exemple, en Virginie. Donc, on avance. Donc, voilà un petit peu les grands points d'arrivée des émigrants. Hein. C'est la Virginie. Donc, c'est la première implantation à Jamestown. Ça a failli très mal se terminer. D'ailleurs, ça s'est quasiment mal terminé, puisque il y avait une centaine de gens qui sont arrivés à Jamestown. Ça a été la première implantation officiel, on va dire. Au bout d'un an, la moitié était mort. Et donc, on a rapatrié, on est venu les rechercher, on les a rapatriés. Donc, ça n'a pas marché. Et après, il y a eu à nouveau d'autres tentatives et Jamestown s'est développé. Donc là, c'était plus une démarche de colon, si vous voulez. Alors que le Massachusetts et Plymouth, c'est la fameuse Mayflower. Hein, donc, c'est la persécution des religieuses des puritains. Qui ont dit ben, on va essayer de trouver quelque chose. Alors, c'était quand même dans le cadre de la charte de Charles Ier. en disant, bien, on va aller là-bas et on va s'implanter, mais sous le chapeau du roi. Hein. Donc le fameux Mayflower, alors ça s'est mal passé aussi au début, de la même façon, et c'est là que vient la fameuse d'Inde, le Thanksgiving, puisque la première année, ça a tombé aussi comme des mouches. L'année suivante, eh bien, ils ont survécu grâce au dindon, qui était un animal qui était spécifique à l'Amérique. Et donc, c'est pour ça que le Thanksgiving, merci à Dieu de nous avoir permis de survivre. Et donc, la fête importante de familiale, où toute la famille se réunit, c'est le Thanksgiving au mois de novembre, qui est l'anniversaire de cet événement. Alors la Caroline, c'est aussi une démarche colonisatrice. La Pennsylvanie, c'est un cas un peu particulier. Pennsylvanie, ça vient du nom du fondateur William Penn, qui est quelqu'un qui était propriétaire dans une logique colonisatrice. La Pennsylvanie, c'est là, vous voyez. Et qui, lui, au milieu du XVIIe, a dit « j'accueille tous les gens qui sont persécutés religieusement ». Parce que tous ceux qui se sont installés, les premiers, qui étaient en fait des Anglicans, ensuite, il est venu, par exemple, les Quakers. Et les Quakers étaient rejetés par les Anglicans. Et il y a eu des batailles religieuses. Et donc, tous les premiers, la xénophobie toujours, mais religieuse, on ne veut pas des Quakers, on ne veut pas de ceci ou de cela. Et donc, le William Penn a dit, moi, j'accepte toutes les confessions. Et en particulier, au XVIIIe siècle, c'est là que sont venus les fameux Amish, je vous en parlerai, entre autres, donc qui sont d'origine allemande. Hein.
Ils sont toujours là.
Ils sont toujours là.
Un peu moins Amish, mais toujours là.
Donc la première arrivée, le Mayflower, c'est autour de Plymouth, hein, et donc voilà les implantations. Vous regarderez ça dans le détail à la maison, hein, les implantations. Et là, je vous montre les deux compagnies qui avaient été fondées, enfin pas fondées, mais autorisées, mises sous une charte par Charles Ier, donc la Plymouth et la London Company, qui, pour des raisons diverses et variées, ont comme on dit en français, un overlap, un recouvrement. Donc les zones d'influence se recouvraient. Voilà. Je vous en montre une autre. Voilà. Ah, là, le nom de Virginie, vous savez d'où vient le nom de Virginie, c'est la reine vierge Élisabeth Ier. Hein, Virginie, la reine Caroline. Voilà, oui. C'est pour ça que je vous fais des exposés, pour que vous appreniez des choses. Alors, on va balayer très rapidement ce qui s'est passé du XVIe au XVIIIe siècle. Et en particulier, vous parlez d'une chose qui est méconnue, c'est l'indenture. Est-ce que vous connaissez l'indenture ? L'indenture.
L'indenture, ça me dit quelque chose.
L'indenture. Alors ça, c'est un système de, on va dire, de colonisation forcée. C'est-à-dire, c'est les prémices de l'esclavage. C'est-à-dire, les gens qui devaient traverser l'Atlantique, en général, étaient pauvres et n'avaient pas les moyens de payer la traversée. Donc les armateurs ou les colonisateurs disaient, écoutez, je vous paye la traversée, je vous paye le premier établissement, c'est-à-dire l'équipement, la survie minimale, et vous me remboursez sur les produits de votre activité. Et donc, c'était des contrats de 5 à 7 ans. Et au bout de 7 ans, on considérait, si ça marchait, qu'ils étaient libérés de leurs dettes, et donc ils pouvaient s'installer à titre personnel comme des hommes libres, si vous voulez. Mais en fait, ce système très rapidement a été détourné parce qu'il y en a qui n'y arrivaient pas. Et donc, ça s'est terminé en esclavage. Le début de l'arrivée des Noirs était sous ce régime d'indenture. Hein. Donc, les persécutions religieuses, j'en ai déjà parlé. Donc, on peut l'appeler un contrat de domesticité à durée limitée, pour faire court. Voilà. Et donc, vous voyez, 50% des passages étaient sous le régime de l'indenture. Hein. Et sur la période, donc 16e, 18e, donc en trois siècles, il y a quand même 1 million de personnes qui sont venues avec ce régime-là. C'est vrai.
2 millions qui étaient prêts.
Voilà. Et donc, la première législation sur l'immigration, alors c'était pas l'immigration, c'était l'histoire de la naturalisation. Et évidemment, elle est tout de suite postérieure à l'indépendance des États-Unis. Et donc, le premier président, je rappelle, c'est George Washington, qui a été élu en 1789. Et donc, en 1790, le Congrès de l'époque, je rappelle que la capitale, à l'époque, était à New York, et non pas ni à Philadelphie, ni Washington, qui n'existait pas, a fortiori. Et donc, c'est qui donnait des règles pour la naturalisation, c'est-à-dire la citoyenneté américaine. Et évidemment, ce n'était... C'est moi qui sonne. Ça n'était que pour les Blancs protestants et bien-nés, et donc tous les autres, évidemment, étaient exclus de cette naturalisation. Alors, l'esclavage. Alors, l'esclavage, ce n'est pas les États-Unis qui ont inventé le système, hein, c'est... Donc, en 1790, 700 000 esclaves noirs et représentent 19% de la population, tout simplement parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. Comme, là, on n'est pas dans le sud, hein, on est quand même dans les latitudes hautes, hein, mais pour faire l'agriculture, il fallait quand même des gens. Ce n'était pas des problèmes de canne à sucre, hein, ni de coton, ça n'existait pas encore. C'était vraiment l'agriculture classique. Donc, l'immigration forcée liée aux besoins de l'agriculture vivrière. Évidemment, vous connaissez les dégâts l'esclavage, donc je n'insiste pas là-dessus, mais c'est un segment important de l'immigration, mais qui n'est pas dominant numériquement sur toute la période. Disons, ça tournera dans le haut des pics, ce sera 20%, ce qui est le cas aujourd'hui, si vous voulez. C'est pas dominant. Et donc, comme vous le savez, ce système n'était pas perçu négativement, culturellement ou sociologiquement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il a fallu les Lumières pour que l'idée vienne tout doucement que ce système n'était pas acceptable d'une question éthique, du point de vue éthique. D'ailleurs, il y a eu une abolition officielle législative de l'esclavage en 1775, donc avant l'indépendance des États-Unis. Et par contre, ça a quand même traîné encore une 30 ou 40 ans pour que ça disparaisse vraiment. C'est-à-dire tout début du 19e siècle, 1820, on va dire. En 1820, vous verrez sur des graphiques, l'esclavage va disparaître. Va disparaître en sens importation, hein, c'est-à-dire les esclaves sont toujours là, mais il n'y a plus d'apports nouveaux venant d'Afrique, hein, ni des Caraïbes, hein, puisque il y a beaucoup d'arrivées qui viennent des Caraïbes, hein, c'est pas direct. D'ailleurs, vous verrez que le flux direct d'Afrique aux États-Unis est maigre par rapport à tout le volume de la traite négrière. C'est essentiellement les Antilles. Où on avait commencé avec la canne à sucre, hein, et c'est quand le coton est venu qu'on a pompé des gens qui s'occupaient de la canne à sucre pour aller s'occuper du coton. Voilà, un petit rappel aussi pour voir comment les États-Unis se sont constitués. Donc je rappelle, 18e siècle, donc les États-Unis, la vision qu'ils en avaient eux-mêmes, c'était la bande est du continent, la fameuse Louisiane, hein, qui était entre les bordée par le Mississippi, et les territoires de l'ouest, qui étaient les terres inconnues, etc. Et en particulier, je rappelle que toute la zone Pacifique était possession espagnole, entre autres la Californie et même ici le Texas qui était possession espagnole. Donc ça, c'est 18e siècle. Alors voilà en flux, vous voyez, voilà le flux quantitatif direct de l'esclavage sur la côte est. Donc vous voyez par rapport à la, au débit, le gros volume d'esclavage de la traite négrière, ça c'est méconnu, c'est la, l'Amérique du Sud. C'est pas l'Amérique du Nord. Hein, c'est le Brésil. Hein. Comment ? Ah ben là, c'est le cumul, si vous voulez, de, du début jusqu'à 1820. C'est cumulé. Mais c'est cumulé, c'est pas une date précise. C'est le cumul de toutes les... Voilà.
Ben, je sais pas, non, c'est pas des dates, parce que c'est 9000... Non, non, c'est des chiffres. C'est pas des dates.
Non, 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 c'est le cumul, c'est oui, pas... C'est pas une photo à une date donnée. D'ailleurs, à une date donnée, ça veut rien dire. C'est pas significatif.
C'est pour voir comment serait parti.
Alors, là, j'ai mis quelques planches pour dire quelle est l'origine, j'allais dire ethnique, je me retiens, l'origine nationale, enfin culturelle des immigrants. Alors, on pense tout de suite, bien sûr, aux anglo-saxons qui ont constitué le gros bataillon jusqu'au XVIIIe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, les Germains, enfin les Allemands, ont c'est une part tout à fait significative dans une logique de colonisatrice, mais ils sont, j'allais dire, sautés un petit peu par-dessus les Appalaches, et ils sont allés tout de suite dans les Grandes Plaines parce qu'ils n'étaient pas, tout simplement, ils n'étaient pas acceptés par le milieu anglo-saxon sur la côte est. Hein. Et donc, ils se sont implantés. Et je rappelle, vous lisez les journaux comme tout le monde, vous voyez le nombre de patronymes qui ont des racines allemandes aux États-Unis. Donc, il y a un quart de la population qui a des patronymes d'origine allemande. Et donc, voilà un petit peu la zone d'implantation. Disons de la des Allemands. Comment ?
Qu'est-ce qui les poussait, les Allemands ?
Mais la faim. Donc la pauvreté, et donc on veut aller s'installer. Hein. Il y a eu d'autres. Si, si. Alors il y a eu le cas des. Alors si. Alors il y a Louis XIV. C'est Louis XIV qui les a poussés là-bas. Pourquoi ? Il y a eu le sac du Palatinat. Je rappelle qu'en 1709. Les armées de Louis XIV, Turenne pour ne pas le nommer, a ravagé, c'était un génocide allemand, donc toute la vallée du Rhin, le Palatinat, a été massacré complètement par les armées de Louis XIV. Certains historiens disent que c'est la cause profonde des guerres anti-françaises, avant Napoléon. Hein. C'est connu dans l'histoire allemande, ça. Et donc là, bah, les gens, les survivants ont dit, bah, on s'en va. Hein. Et en particulier, les gens qui étaient persécutés, c'était les Amish. C'est à ce moment-là que les Amish sont venus en Pennsylvanie. Alors ensuite, pareil, les Italiens. Alors les Italiens, c'est un phénomène complètement différent. Les Italiens se sont bien immiscés dans le milieu anglo-saxon. Et vous avez des Little Italy dans toutes les grandes villes de la côte est. Vous n'avez pas de Little Germany, ça n'existe pas. Hein. Évidemment, je vous montre les Noirs, donc la population noire, ça c'est la situation actuelle, si vous voulez, mais au moment où, l'immigration a eu lieu, c'était pas franchement différent. Donc il n'y a pas eu tant de mouvements de population noire qu'on veut bien le dire, même avec la guerre civile, la guerre de sécession. Quantitativement, ça n'a pas été tout à fait significatif. Alors ça, c'est au niveau du pays, et quelques exemples des ségrégations, disons, urbaines, hein, où dans toutes les grandes villes de la côte est, eh bien, vous avez des zones pour les Italiens, les Écossais, les Irlandais du Nord et Irlandais du Sud, même si les deux pays n'existaient pas en tant que tels, mais comme c'était deux choses différentes. Donc, voilà. Et voilà un graphique synthétique qui me paraît bien, qui me permet de tout voir, si vous voulez, c'est-à-dire par tranche d'année, le montant de l'immigration. Et la bande blanche ici, ce sont esclaves. Et vous voyez que la date de la suppression de l'esclavage, c'est là, la date juridique. Et vous voyez que ça a continué encore jusqu'en 1810. En 1820, il n'y en a plus, en termes d'entrée, si vous voulez. Hein ? Alors, disons les pointes, si vous voulez, pour vous voyez, ça fait immigration en milliers, 120 000. C'est pas des chiffres très élevés. Voilà le même présenté sous forme de camembert. Vous le regarderez plus dans le détail. Hein. Et on arrive au 19e siècle. Et donc, en 1820, l'immigration s'est pratiquement arrêtée, sans qu'on ait bien d'explication bien claire. Hein, et ça a redémarré au 19e siècle. Pourquoi ? Ben, pour des événements qui sont liés à des événements européens, mais aussi au fait que les moyens de transport, c'est-à-dire c'est l'apparition des bateaux à vapeur. Et donc, le prix de la traversée baisse et... le système des passeurs existe toujours, mais c'est plus accessible à une masse importante de gens. Donc, quels sont les événements qui sont pas extérieurs qui ont été les moteurs des principaux flux ? C'est la ruée vers l'or en Californie. Donc là, les Chinois sont arrivés massivement de Californie et ont été traités comme des Chinois, c'est-à-dire très mal et très ostracisés. L'Europe centrale, je rappelle que dans toute l'Europe centrale, toutes les révolutions qui ont suivi celle de 1848 en France, il y a eu des révolutions en 1849 qui ont toutes été écrasées dans le sang par les monarchies des empires centraux. Et donc là, il y a eu beaucoup d'émigrations, en particulier d'Allemands, à cette époque-là. Et... c'est une des explications qu'on donne à la puissance exportatrice actuelle des Allemands. C'est ce qui s'est passé en 1849. C'est-à-dire, vous avez des Allemands partout dans le monde qui représentent toujours leur pays. Voilà. Et ça, je l'ai vécu, moi, personnellement. Dans tous les pays du monde, vous avez des Allemands qui sont de la 8e génération qui défendent les intérêts allemands. Voilà. L'immigration n'est vécue négativement que pour des motifs ethniques. Bon, j'évoque les Chinois.
Les Japonais ?
Non, les Japonais, on en parlera au XXe siècle. Ouais. Les Japonais, il n'y a pas d'immigration et il n'y a pas d'émigration. Les Japonais, c'est la planète Mars. Hein. Voilà. Alors, autre événement, la famine liée à la patate. Vous savez qu'en Irlande, il y a eu en 45-52 une maladie, un champignon parasite sur la pomme de terre qui a fait crever un tiers de la population irlandaise. Et donc là, c'est une migration massive. Et après, on revient dans une logique d'immigration économique, c'est-à-dire ben, c'est l'Eldorado, donc il y a du boulot, c'est la révolution industrielle, donc on vient en masse. Avec cette fois-ci des volumes, vous voyez, qui commencent à devenir significatifs hein, par an. Vous voyez, ça tourne autour, les pointes, c'est 800 000, hein, 700 000. Voilà. Et donc, après, tout ça, ça se cumule, évidemment. Hein. Et donc, le taux d'immigration, mais on est toujours l'immigré de la génération précédente. Hein. Donc, ça monte jusqu'à 15%. Je rappelle qu'en France, on est en dessous de 10%. Hein. On est plutôt 7-8% Alors, donc, la tradition juridique, vraiment consubstantielle aux États-Unis, fait que ça pond des lois en veux-tu, en voilà. Et donc, j'en ai cité quelques-unes. J'en ai une liste tout à fait impressionnante. Je vous fais grâce. L'idée, c'est celui des Chinois, par exemple, c'est-à-dire... voilà, il y a une loi qui a été votée en 1882 qui excluait totalement l'immigration d'un pays du fait de l'origine. Ça vous rappelle rien ? Donc on dit dans les journaux télévisés que c'est la première fois qu'on a fait ce truc-là, ce qui est un mensonge éhonté.
On dit aux calendes, là, pour
pas dire non plus. Il n'y avait pas la télé à l'époque.
Hein ? Non, non, mais.
En 1982, est-ce que les États-Unis existaient ?
L'ignorance crasse du journaliste de base, elle est démontrée une fois de plus. Bon. Donc, voilà. Et alors, jusqu'en 1892, c'est là qu'on va arriver à Ellis Island, ce sont les États, c'est-à-dire, je rappelle que les États-Unis, c'est une fédération, ce n'est pas un État monolithique, ce sont les États qui s'occupent individuellement de faire une propre législation et de gérer, tant bien que mal, l'immigration. Donc, en 1892, le Congrès a donc décrété que c'était l'État fédéral qui s'occuperait maintenant de la gestion de l'immigration, et donc on fait qu'une seule porte d'entrée, c'est le fameux Ellis Island. Alors, en fait, il y en avait une avant, de porte, qui s'appelait Castle Garden. C'est pas génial, l'État de New York, maintenant ça s'appelle Fort Clinton. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Donc, Ellis Island, dont je vais passer pas mal de temps là-dessus avec des images. Hein. Donc, voilà la succession des opérations. Donc, je vous montre Castle Garden. Donc, si vous connaissez Manhattan, vous voyez, ben, tout simplement, c'était un fort qui était juste à la pointe de Manhattan. Et donc, voilà quelques images, quelques gravures de la façon dont ça se passait. Donc, vous pouvez bien l'imaginer. Et donc, on arrive à Ellis Island. Alors, ce que vous voyez sur cette planche-là, c'est l'état actuel, c'est-à-dire, je rappelle, c'est un musée hein, de l'immigration. Ça a été ouvert tout à fait à la fin des années 90. Hein. Et moi, j'ai eu l'occasion de le visiter deux fois, ce musée-là. Donc, la grande salle où il y avait les formalités d'entrée, elle est complètement vidée et ça fait un grand hall comme ça. Et voilà ce qu'il y avait dans cette grande salle avec tous les guichets, les registres et toutes les choses comme ça. Donc, l'examen médical, et donc, c'était comme à l'abattoir, si vous voulez, on passait, voilà, et il n'y avait pas encore de code-barre, ni d'empreinte digitale, ni de machin, donc à la craie, sur les habits des gens, on mettait des symboles comme ça, qui avaient une signification, qui en disant, il a la tuberculose, il a le glaucome, il a ceci, il a cela, il est idiot, il est débile, il ne sait pas lire, bon, etc., etc. Ah, voilà le look d'Ellis Island, très victorien comme look. Hein. Ah, voilà, pour vous situer, vous voyez la statue de la liberté, donc ça fait un triangle, vous avez la statue de la liberté, Ellis Island, et la pointe de Manhattan, elle est là, hein, pour vous situer. D'ailleurs, quand on fait la visite, en fait, le bateau, vous le prenez, vous visitez la statue de la liberté, après vous allez là et vous retournez à Manhattan. Alors voilà la grande salle où il y avait tous les bureaux où on faisait les formalités administratives. Voilà une galerie de portraits, alors ça c'est le musée. Hein. Et voilà quelques photos sur les bateaux. Voilà comment ça se passait. Hein. C'est pas Exodus, mais tout juste. Hein. Bon, les enfants des écoles. Et j'ai mis ça tout simplement parce que tout de suite derrière, dès qu'ils avaient réussi à passer la barrière, eh bien, c'était une vie tout à fait fourmillante de boutiques de toutes les origines de machin. C'était très vivant, la pointe sud. Et donc, sur la période, 8 millions d'immigrants sont passés. Et il y a eu un pic en 1907, 1,2 million. Retenez bien ce chiffre-là, on va revoir combien il y a d'immigrés en ce moment, hein, pour faire la comparaison. Hein.
Qu'en 54.
Ben, parce que, en fait, les transatlantiques, c'était fini. Hein. Et donc, c'est tout doucement, bon, c'était un biseau, hein. Puis il y a eu la guerre, enfin, il y a eu d'autres facteurs. Donc, les réfugiés juifs réfugiés juifs ont été accueillis avec un quota. Les Italiens et les Slaves ont été accueillis avec un quota. D'une façon générale, il y a eu des quotas à partir de 1924, c'est-à-dire rien n'est interdit, mais nationalité par nationalité, on a un cadre. Pendant la Grande Dépression, il n'y a plus d'immigration, mais on imagine bien pourquoi, parce que d'abord, il y a eu un décalage dans le temps. Je rappelle que la crise, elle a vraiment démarré en 29-30 aux États-Unis. Elle n'est venue qu'en Europe en 32-33. Donc, et c'était connu qu'il y avait, que c'était la pagaille, enfin, que c'était la dèche aux États-Unis. Donc, on n'avait pas envie d'y aller. Et là, il y a eu des opérations, ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement des recours à la frontière. Là, c'était massif disons, à la pointe de la baïonnette, entre guillemets. Hein, voilà. Ce n'était pas fait dans la dentelle. Ah, voilà d'autres courbes en fonction des nationalités. Je vous laisserai l'analyser. On n'a pas le temps d'en faire l'exégèse détaillée. Vous voyez par exemple des courbes, là, c'est les pays de l'Est. Pays de l'Est au sens 19e siècle, hein, c'est-à-dire l'Europe centrale, Roumanie, les Balkans, les choses comme ça. Tout simplement parce qu'il y avait des troubles dans ces zones-là. Hein. On a l'air de découvrir qu'il y a un problème avec la Syrie, ça existe depuis la nuit des temps, hein, mais d'une façon quantitativement significative. Et voilà la même chose avec les différentes pointes. Donc vous voyez, ce que je vous montrais dans les tableaux précédents, ça paraissait comme un pic, hein, au milieu du 19e siècle. Regardez ce qui s'est passé dans cette période-là. Donc là, au tournant du 20e siècle, c'était vraiment tout à fait extraordinaire. Et voilà le quota, donc des caricatures. Alors, la même chose, mais par pays, donc les origines. Et là, la courbe vient jusqu'en 2010. Et vous remarquez que dans les années 90, c'est là qu'on a eu le plus d'immigrants aux États-Unis, toute année confondue. Et ça, on ne le dit pas. C'est le double de ce qui se passait au tournant du XXe siècle. Ah, c'est une immigration tout à fait régulière, avec des quotas encadrés, toujours pareil, pays par pays. Et en particulier, là, vous voyez, Mexico, les Mexicains sont arrivés. Alors là, c'est les officiels. C'est l'immigration officielle, c'est-à-dire c'est les statistiques du bureau d'immigration. Évidemment, on ne compte pas les clandestins. Bon, voilà.
On n'est pas concerné.
Non, non, les Français, ils émigrent pas. Hein. Enfin, quantitativement, ils émigrent très peu. Hein. Sauf des hautes qualifications. Bon, mais ça a tout le temps été marginal. Pourquoi on n'a pas eu la Louisiane et les choses comme ça? Napoléon, quand il a revendu la Louisiane, c'est qu'il était très conscient du fait qu'on n'avait pas une implantation numérique telle qui nous permette de tenir. C'est pour ça qu'on a perdu le Canada. On a peut-être perdu des batailles au Canada, mais de toute façon, si on n'avait pas perdu celle qu'on a perdue, 10 ans après, on l'aurait perdue, parce qu'on n'avait pas numériquement une présence suffisamment forte qui permette de faire le pendant des anglo-saxons. Oui, bien sûr, on a des Français partout. Voilà, donc voilà encore un autre graphique qui dit la même chose. Si vous voulez, je passe rapidement. Donc c'est quand même les Européens, même encore aujourd'hui, qui en cumulé représentent l'essentiel des... Mais vous voyez, par exemple, l'Amérique du Sud, c'est significatif.
La langue, par exemple, il y a beaucoup de...
Oui, ben, il y a beaucoup d'hispaniques. Voilà. Bon, voilà.
Ils ne veulent pas apprendre l'anglais, c'est aussi un problème.
Donc, je vous dis, on n'a pas le temps de faire une exégèse extrêmement détaillée, mais j'ai pris tous ces graphiques parce que j'ai trouvé qu'ils étaient assez synthétiques et qu'en un coup d'œil, ça renforçait, si vous voulez, ce que je vous raconte.
Hein.
Alors là, à nouveau, des ségrégations urbaines par origine, si vous voulez. Donc là, c'est la carte en 2010, donc c'est tout à fait récent. Je vous laisserai également le regarder. Alors, vous voyez, Manhattan aujourd'hui, c'est ça. Et le Grand New York, c'est ça. C'est le Bronx, le Queens. Donc c'est gigantesque. Hein. Évidemment, beaucoup de minorités maintenant, plus personne ne va à Manhattan, c'est trop cher. Et ça va dans les quartiers périphériques et même dans le New Jersey. Et voilà les chiffres d'immigration. Alors regardez, entre 2000 et 2009, 1 million d'immigrés. Entre 2010 et 2015, 1 million en 5 ans. Ça monte encore. Mais heureusement que M. Trump arrive, parce qu'il faut que ça s'arrête, ça. C'est pas possible. Il y a des naturalisations, vous savez, on voit ça à la télé, où on demande un engagement formel dans une cérémonie d'accepter la nationalité américaine. Donc évidemment, les Mexicains sont largement représentés dans l'Ouest, etc., etc. Les Cubains, largement représentés en Floride, enfin bon, ça tombe sous le sens. Ah, là aussi, ben, c'est un peu la même graphie que je vous ai montrée au début, mais c'est sur l'ensemble des... Donc, le bleu que vous voyez, ben, c'est tous les Allemands. Largest ancestry, c'est-à-dire ceux dont l'origine est identifiée, qui numériquement sont les plus nombreux. Donc, ça c'est quelque chose qui est méconnu. Là, il y a les États-Unis sont d'origine anglo-saxonne, mais il y a un substrat teuton qui est tout à fait significatif, ce qui explique un certain nombre de positions. Ça, c'est le Trump, c'est du républicain.
On ne voit pas hein, ce que tu fais. Hein? On ne le voit pas ici.
Ah, tu ne le vois pas? Il n'y a pas la flèche.
On voit que tu nous indiques quelque chose par la parole, mais on ne le voit pas sur...
Bon, ben, faut que je fasse le paramètre.
J'imagine.
Mais si, bleu clair, il y en a énormément.
Oui, mais on ne voit pas la flèche. Ah oui, quand il fait ça. Voilà, on ne voit pas
la
flèche.
Là.
Ah, voilà, ça y est.
T'as trouvé la mouche?
Ça marche.
T'as trouvé la mouche?
Elle est partie.
Qu'est-ce que... Eh ben, bien sûr, parce que je l'ai enlevé. Bien, donc je vous propose d'arrêter là et je vous donne 3 extras pour vous décontracter un petit peu. Alors maintenant, il faut que j'enlève ça parce que tu m'as fait...
Pas vraiment contracté. Ouais. Pas surpris non plus.
Ah! Maintenant, tu m'as fait faire un truc qui... Je ne peux plus m'en débarrasser.
T'as la mouche ?
T'as trouvé le truc, tu peux te débarrasser du truc.
Bon, là, je vais...
Bien sûr.
Alors, je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous montrer ça, c'est l'extra. Bon, alors si vous lisez tous l'anglais, là, une majorité d'immigrants dans le 18e siècle ont été forcés d'immigrer, donc c'est les Noirs, hein, voilà.
On n'a pas ça, on a des adresses mail.
Nous, on n'a pas ça.
Ah.
Là, rétro.
Bon, alors, attends.
Nous, on voit rien, là. On a le son, mais pas l'image. Non. Ah,
voilà.
Bon, je reviens en arrière parce que vous avez raté le.
C'est bon.
Ça.
Bon, donc, en 1790, c'est le débit qui est pas assez fort. Voilà, donc, c'est l'esclavage. Et donc, on vous montre bien que ça passe par les Caraïbes. Je vais le mettre en petit écran parce que ça passera mieux, à mon avis. Alors, la révolution industrielle a attiré des milliers en provenance d'Europe, évidemment. Et la ruée vers l'or a attiré tous les Chinois vers la Californie. Et beaucoup, des millions d'Irlandais sont venus à cause de la famine au milieu du 19e siècle. L'introduction des bateaux à vapeur a permis d'avoir beaucoup plus d'immigrants et c'était moins cher, le voyage était moins cher. Donc les Chinois ont été interdits des États-Unis pendant 60 ans alors que les autres étaient régis par un système de quotas. Donc, comme je vous l'ai dit, au tournant du XXe siècle, donc là, c'est la pointe. Et donc, les Juifs, les Mexicains, les Russes, les Arméniens sont avec le génocide. Voilà. Après la Première Guerre, donc, les quotas. Avec la Grande Dépression, il n'y avait plus d'immigration.
Ralenti.
Voilà. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 400 000 réfugiés.
400
000.
Oui.
Et donc, les quotas ont été abolis par Lyndon Johnson en 65. C'était dans l'ambiance des droits civiques. Donc après, c'est la guerre du Vietnam, donc le sud-est asiatique est venu en masse, surtout sur la côte ouest. Et donc, Ronald Reagan, même lui, il a régularisé 3 millions de...
Et les quotas ont été remis après ?
Oui, oui. Non, les quotas, ils y étaient encore, mais c'était des gens qui étaient rentrés illégalement. Il y a des quotas, il y a des quotas. Sont abandonnés, ils ont été remis sûrement une quinzaine d'années après, parce qu'on a vu que ça ne faisait pas quoi. Donc moins de 2% ont des ancêtres américains d'origine, évidemment. Voilà. Donc ce petit film, il est pas mal, il est en 5 minutes, bon, il raconte un petit peu la même chose que ce que je viens de vous dire. Et puis, à titre d'amusement, je vais arrêter là. Ben, on passe le. Ben. Non, pas ça. Alors. Ah, ça, c'est des photos complémentaires. Ça, c'est des photos que nous avons prises quand nous sommes allés visiter Ellis Island. Donc, il y a un musée et on a pris des photos des panneaux qui étaient là. Donc. Et donc, on retrouve les examens médicaux. Voilà la même que je vous ai présentée. Et voilà les faciès, si vous voulez, des gens qui arrivaient à la fin du 19e siècle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est que toutes les boutiques sont écrites en allemand ou en yiddish. Et non pas en anglais. Je rappelle que... il y a eu un débat au Congrès pour savoir quelle serait la langue officielle des États-Unis et l'anglais a gagné d'une voix comme la République contre l'allemand.
C'était en quelle année ça?
C'était la fin du... Enfin, non, c'était c'était la fin du 18e. Hein, parce que là, la Pennsylvanie, ça parlait l'allemand.
Donc William Penn était un Anglais.
Oui, mais oui. Enfin, les Amish, par exemple. Les Amish parlaient yiddish. Hein. Je rappelle que le yiddish est un mélange d'allemand et d'hébreu. Hein. C'est un jargon mélangé d'allemand et d'hébreu. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé leur costume de la date à laquelle ils ont immigré.
Voilà. Voilà.
Donc vous voyez les signes, les croix, les... Bon. Voilà. Et il y a des tests psychotechniques. C'est là qu'on a utilisé pour la première fois des tests psychotechniques pour évaluer les gens. On s'occupe des gamins quand même. Voilà l'arbre de Noël. Et voilà les looks typiques de l'Asie centrale et des pays de l'Est. Voilà. Et dernière récréation. Alors là, je vous montre. Je vous montre Williamsburg. Alors Williamsburg, ça a été la première capitale de ce qui est avant, enfin de la Virginie, on va dire. Hein. Et donc c'est à 5-10 km de Jamestown. Jamestown, c'est dans la rivière, la rivière James. Et le Williamsburg, c'est plus à l'intérieur des terres. C'est ce qu'on a visité, c'est une ville-musée. C'est-à-dire, les maisons qui ont été conservées telles qu'elles étaient, et sur 2 km², les gens qui sont là, qui habitent là, sont habillés en costume d'époque. Et donc, on ne voit pas du tout le... Oui, oui, oui.
C'est un pays ultra moderne, comme les États-Unis, pour faire des choses...
Et voilà un gars qui est un touriste.
C'est bizarre, parce qu'il se ressemble bien que les Français. Hein.
Voilà.
Ah, plus tout à fait.
Voilà.
Ils ne sont pas habillés toute l'année comme ça, quand même.
Comment ?
Toute l'année, ils sont habillés.
Oui, oui. Oui, oui, toute l'année.
Le ridicule ne tue plus.
Toute l'année. Non, mais c'est des animations. C'est une ville musée. C'est des employés. C'est pas des gens qui vivent. C'est pas des gens qui vivent comme ça, bien sûr. Mais mais ils reconstituent des scènes. Et là, c'est voilà. On est au tribunal là. Et là, c'est la. Alors ça, c'est intéressant. C'est le House of Burgesses. C'est la mairie, on va dire. Hein, la maison des bourgeois, ça s'appelle en français. Et donc, c'est la capitale, quoi. C'est l'endroit du pouvoir politique. Voilà. Voilà. Merci de votre patience. Voilà. Donc, les images, je les mettrai.